Le journal de la rédaction, c'est avec vous, Ilan Malka, bonsoir.
Bonsoir Julie Gacon, bonsoir à tous. C'est un appel du mouvement de la jeune Suédoise Greta Thunberg manifesté devant les ambassades du Brésil à travers le monde pour faire pression sur le pouvoir du pays face à ces incendies qui ravagent la forêt amazonienne. Un appel qui a été entendu notamment à Paris. Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées, nous dira Pierre-François Plessis. Jair Bolsonaro, le président brésilien, a menti sur ses engagements en faveur de l'environnement et dans ces conditions, la France s'oppose au traité de libre-échange controversé UE-Mercosur. C'est ce que fait savoir l'Élysée aujourd'hui. Nous entendrons l'analyse d'Anne-Laure Jumet, chef du service politique de France Culture. Aux États-Unis, les pressions exercées par Donald Trump sur le patron de la Banque centrale américaine, la Fed, restent sans effet. Jérôme Powell ne semble pas prêt à baisser les taux d'intérêt malgré les injonctions de la Maison-Blanche. Le président américain s'emporte sur Twitter. Notre correspondant à Washington, Loïc Loury, nous en dira plus. La forêt égale nos poumons. Voilà le type de slogan que l'on pouvait lire sur les banderoles devant l'ambassade du Brésil à Paris dans le 8e arrondissement aujourd'hui. Quelques 200 personnes étaient réunies à l'appel du mouvement de Greta Thunberg. Elles ont appelé à sauver l'Amazonie ravagée par des incendies et elles ont dénoncé également la politique de déforestation du président Bolsonaro qu'elles jugent responsable de la situation actuelle. Pierre-François Plessis, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous avez suivi ce rassemblement.
Oui, les manifestants ont chanté pendant plus de 2 heures pour déplorer les incendies. Beaucoup de chants, vous l'avez dit, visaient directement le président brésilien parce que le premier responsable, c'est Jair Bolsonaro pour les manifestants français et les manifestants brésiliens comme Julia.
Il faut qu'il s'en va le plus vite possible. Chaque jour que ça passe, on a l'impression que notre pays il est en train d'être détruit.
Les manifestants ont insisté sur la déforestation pour Tessir. C'est le signe que la catastrophe relève de la responsabilité de tous.
On ne peut pas juste rester indifférent face à ça, même si on est en France. Il faut savoir que les industries françaises profitent également de sa politique climaticide, profitent du fait que l'Amazonie est en train de déforester pour investir là-bas et pour profiter de cette déforestation. Donc c'est aussi notre responsabilité en tant que citoyens français de riposter face à ça.
Et beaucoup ont pointé du doigt la communauté internationale et son laxisme vis-à-vis du Brésil. C'est le cas de João, un jeune étudiant franco-brésilien.
Il faut vraiment que les puissances telles que la France se positionnent. Parce qu'on peut dire on est pour les arbres, le G7 va avoir place en France, etc. Mais si on continue à importer des choses, si on continue à appuyer ce gouvernement économiquement, ça n'a pas de solution.
Parmi les manifestants, la plupart n'osaient pas espérer grand-chose du G7 qui s'ouvre demain. Mais une chose est sûre, le sommet sera largement scruté par les militants écologistes.
Merci à vous Pierre-François Plessis. À noter qu'un rassemblement équivalent s'est tenu à Londres. 300 personnes étaient également réunies devant l'ambassade du Brésil. Parmi les panneaux arborés, arrêtez la destruction maintenant, sauvez l'Amazonie ou encore aimez-vous vraiment plus les hamburgers que l'oxygène. Un autre rassemblement du même type s'est tenu notamment à Barcelone. Alors on le rappelle, ces feux qui ravagent la plus vaste forêt tropicale de la planète sont d'une ampleur absolument exceptionnelle. Plus de 2500 nouveaux départs d'incendie ont été dénombrés en 48 heures, une hausse de 83% par rapport à la même période l'an dernier, selon l'agence spatiale brésilienne. Écoutons Guillaume Le Turc, géographe, professeur au Brésil à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul. Il a travaillé en Amazonie. Pour lui, ces incendies sont d'abord un spectacle désolant, mais aussi une affaire politique. Il répond à Nadine Epstein.
C'est la tristesse quand on voit les images ou la situation. C'est une situation atypique. Ça prend des proportions inédites. Une période sèche, en fait, pour l'Amazonie, notamment le Mato Grosso, où il y a le plus de feu. C'est une période la plus désastreuse, parce que le feu va se propager à une vitesse assez affolante.
Parce que ces incendies ne peuvent pas être étouffés rapidement?
Non, ils ne peuvent pas être étouffés rapidement. C'est des zones distantes des grands centres urbains. L'exemple du Mato Grosso, c'est une région de forte agriculture. Il y a la région la plus importante au monde de production de soja et une des régions les plus importantes d'élevage de bovins. Pour contenir le feu, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très sec en ce moment. C'est obligatoirement une affaire politique. Depuis qu'il y a le nouveau gouvernement, ça prend des proportions inédites. Les propriétaires terriens dans ces régions sont des grands propriétaires, ils habitent dans les centres urbains. Mais par contre, ils ont des gens qui travaillent à leur solde, qui peuvent se permettre de faire ça. Et la question est surtout l'impunité. En ce moment, il n'y a plus de surveillance, plus de contrôle. Le service forestier du ministère est passé du ministère de l'Environnement au ministère de l'Agriculture, sachant que le ministère de l'Agriculture est contrôlé par les grands propriétaires terriens.
Des propos recueillis donc par Nadine Epstein. Ces incendies qui sont en train de ravager l'Amazonie sont peut-être aussi en train de détruire le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Après l'Irlande ce matin, c'est au tour de la France de dénoncer ce projet de traité. La présidence française accuse Jair Bolsonaro d'avoir menti à propos de ses engagements climatiques lors du dernier sommet du G20 et cela pourrait donc remettre en cause cet accord. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service économie à France Culture. Est-ce que le fait que la France prenne ses distances avec ce traité constitue vraiment une surprise?
Disons qu'effectivement, là, on franchit quand même un cap. Emmanuel Macron avait plutôt défendu cet accord, estimant qu'il ne fallait pas être protectionniste. Mais c'est vrai qu'il se ménageait dans le même temps une porte de sortie face à une opposition grandissante. On se souvient que début juillet, la France avait indiqué ne pas être prête à ratifier ce texte, précisant qu'elle le regarderait dans le détail avant de prendre une décision. Mais ce soir, c'est donc la rupture. La France s'oppose en l'état, dit-elle, à cet accord. Et ça réjouit d'ailleurs beaucoup de monde. Nicolas Hulot parle de première étape essentielle. Et puis la classe politique est plutôt unanime pour saluer cette décision, tout comme, bien sûr, les agriculteurs qui s'inquiétaient de voir débarquer en Europe de la viande brésilienne nourrie aux antibiotiques. Alors, il faut préciser qu'il y avait dans cet accord de libre-échange, un chapitre spécifique sur le climat. L'Union européenne et le Mercosur s'engageaient à mettre en œuvre l'accord de Paris, reconnaissant la menace liée au réchauffement climatique. Mais pour Emmanuel Macron, ce pacte est rompu depuis quelques semaines, car les incendies en Amazonie servent de détonateur, mais on explique à l'Élysée que ça faisait déjà quelques semaines que le président Bolsonaro irritait la France, ne montrant pas un grand intérêt pour la biodiversité, depuis pourtant ses déclarations main sur le cœur au sommet d'Osaka fin juin. Alors la France entend bien sûr parler du sujet demain, lors du G7, à ses partenaires européens, Italie et Allemagne. Rallieront-ils sa position? En tout cas, hors G7, l'Irlande a déjà menacé de bloquer elle aussi l'accord si le Brésil ne réagissait pas en Amazonie.
Merci à vous Anne-Laure Jumet. En prélude justement au sommet de Biarritz, le G7 qui s'ouvre donc demain, Emmanuel Macron continue à recevoir dans son bureau à l'Elysée. En fin de matinée, il s'est entretenu comme prévu avec le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire. Les propos d'Emmanuel Macron vont dans le bon sens, mais il reste encore du chemin à parcourir, c'est ce qu'a affirmé le ministre iranien à l'issue de la conversation, sans donner davantage de détails. Aujourd'hui, sur l'agenda du président également, une rencontre avec les entreprises et groupes d'engagement du G7 mobilisés pour la réduction des inégalités et la protection de la planète. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Emmanuel Faber, PDG de Danone, était dans le bureau du chef de l'État cet après-midi. Il doit former une coalition de patrons internationaux s'engageant contre les inégalités et pour l'environnement. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Ilan.
Alors nous en parlions hier déjà, en début de semaine, plusieurs grands patrons américains se disaient prêts à davantage de responsabilités sociales. Alors les grands patrons français sont prêts également à prendre des engagements dans ce sens. Est-ce que l'on peut y croire véritablement ?
L'idée avait été lancée au sommet de la paix à Paris, c'était le 11 novembre dernier. La voilà maintenant officialisée au sommet du G7 à Biarritz. L'initiative est donc française. Elle consiste à créer une plateforme mondiale d'entreprises abritée au sein de l'OCDE. Des entreprises qui s'engagent à offrir des salaires décents à leurs employés, combler les écarts de salaire entre hommes et femmes, réduire les disparités territoriales, toute forme de discrimination. Bref, la liste est longue, mais en résumé, Milton Friedman, c'est du passé. À entendre les déclarations de ses grands patrons, la théorie du prix Nobel de l'économie qui posait le but premier d'une société de payer ses actionnaires, c'est terminé. Peut-on y croire ? En tout cas, il y a une réelle prise de conscience, il y a même urgence. Partout, les inégalités se creusent, les démocraties sont les unes après les autres fragilisées par la montée des populismes. Les manifestations violentes éclatent un peu partout dans le monde et le monde économique comme politique a compris qu'il faut changer. L'économie inclusive est devenue le mot d'ordre et tous les acteurs de l'économie sont en train de muer, au premier rang duquel la finance, pour exemple, les plus grands fonds souverains d'investissement au monde, comme le fonds de Norvège, qui dispose de 870 milliards d'euros d'actifs, a entamé son grand virage écologique. Il oriente peu à peu tous ses capitaux vers l'économie durable. Même chose chez l'américain BlackRock. En résumé, les intentions sont là, le mouvement est lancé. Maintenant, on attend des actes, des actions et des effets dans notre quotidien.
Merci à vous, Annabelle Grelier. C'est donc le jour d'avant le G7, bien sûr. Et Biarritz est en train de changer de visage. Protégé par plus de 13 000 policiers et gendarmes, la ville et ses alentours se transforment pour l'occasion. Les dirigeants sont attendus demain, mais la station balnéaire se retrouve déjà découpée en zones depuis ce matin. Le cœur de ville a déjà des airs de camp retranché, Rosalie Lafarge.
Les cris des mouettes couverts par le bruit des hélicoptères, le balai des surfeurs torse nu et planche sous le bras a laissé place à celui des camions de police. On ne pénètre plus au cœur de la ville qu'avec un badge en se soumettant aux nombreux contrôles.
Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît.
Ce qui a le don d'irriter cette commerçante de l'hypercentre.
On était en moto, donc déminage, chien. On nous a escortés jusqu'ici. Jamais vu autant d'armes de ma vie. On est presque en état de guerre et je trouve que c'est très très agressif.
Des blocs de béton siglés G7 en travers des rues, des barrières à n'en plus finir. Le dispositif de sécurité est tel que la zone rouge, l'endroit le plus surveillé, est quasi vide.
Ça donne une impression un peu insolite d'une station balnéaire où ne circulent en plein centre que les gens avec badge et accréditation, avec un très grand nombre de forces de l'ordre, un très grand nombre aussi de journalistes. Et finalement, une impression un peu surréaliste.
Mais certains Biarros relativisent et préfèrent voir les bons côtés.
Tous les gens qui viennent à Biarritz aujourd'hui de tous les pays, il y en a qui connaissent pas Biarritz et ils vont y revenir.
Des retombées économiques à long terme peut-être, à court terme c'est sûr, insiste le maire centriste de la ville. Le G7 consomme et cela profite à des entreprises locales. Mais surtout Michel Venat qui tient Biarritz a une tradition d'accueil des grands de ce monde qu'elle se doit d'honorer.
Si on n'est pas capable, pour cet événement majeur, de faire valoir nos compétences en matière d'accueil, alors là vraiment c'est qu'on serait mauvais. Parce que ce qui restera dans l'histoire de la ville, c'est qu'elle a accueilli le plus grand sommet diplomatique et politique de la planète en 2019.
En attendant, riverains, commerçants et touristes doivent faire avec. Biarritz est sous cloche et va le rester jusqu'à la fin du G7 lundi soir.
Un reportage signé Rosalie Lafarge. Nouvel épisode dans cette guerre commerciale que se livrent Pékin et Washington. La Chine annonce aujourd'hui son intention d'imposer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importations en provenance des États-Unis. Sont concernés notamment des produits agricoles tels que le soja, le pétrole brut ou encore les petits avions. À partir du 15 décembre, la Chine va également rétablir la taxation d'automobiles et de pièces détachées d'origine américaine. Les autorités chinoises répliquent ainsi à la décision américaine de taxer quelques 300 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires, décision qui avait été annoncée il y a quelques semaines. Donald Trump promet une réponse dans la journée. Le président américain, justement, se demande, dans un tweet évidemment, s'il ne s'est pas trouvé un pire ennemi que le président chinois Xi Jinping. Ce pire ennemi, ce serait Jérôme Powell, le président de la Fed, la banque centrale américaine, qui a prononcé aujourd'hui un discours à Jackson Hole dans le Wyoming. Il ne semble pas prêt à baisser les taux d'intérêt malgré les injonctions de la Maison Blanche et loin de plier devant Donald Trump, il semble le rendre responsable des incertitudes qui pèsent sur l'économie américaine. Loïc Loury.
Face aux tensions commerciales, la banque centrale n'a pas de mode d'emploi tout prêt. Voilà ce qu'a déclaré Jérôme Powell ce matin face à des banquiers centraux et économistes du monde entier. Pour le patron de l'institution, les perspectives économiques américaines restent favorables, mais la situation internationale s'aggrave, notamment, dit-il, à cause des incertitudes commerciales et en particulier du bras de fer actuel entre les États-Unis et la Chine. Pékin vient d'ailleurs tout juste d'annoncer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importations américaines. Donald Trump, lui, a une toute autre analyse de la situation. Chaque jour ou presque, le président s'en prend à la Fed et à Jérôme Powell, accusé de désavantager les États-Unis à cause du maintien de taux d'intérêt élevés. Le dollar est fort, la Fed est faible, dit-il encore aujourd'hui sur Twitter. Les marchés, eux, devront attendre la réunion monétaire du 18 septembre prochain pour savoir si ces fameux taux connaîtront une nouvelle baisse après celle décidée le mois dernier. En attendant, ils observeront avec fébrilité la courbe des taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain. Elle s'est inversée 3 fois en à peine 8 jours, un signe considéré comme annonciateur d'une récession à venir.
Loïc Loury. Il y a donc bien, c'est confirmé, un volet français désormais dans l'enquête sur les agissements de Jeffrey Epstein. Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête pour viol et agression sexuelle, notamment sur mineurs, dans le cadre de l'affaire de ce financier américain retrouvé mort en prison il y a près de 2 semaines. Les investigations portent notamment sur d'éventuelles infractions commises sur le territoire national, mais aussi à l'étranger, au préjudice de victimes françaises. L'association Innocence en danger affirme avoir reçu 10 témoignages émanant principalement de victimes d'actes actes commis sur le sol français en lien avec Jeffrey Epstein, qui possédait, on le rappelle, un appartement à Paris. Le ciel de demain ressemblera à celui d'aujourd'hui et aussi à celui d'hier. Quelques risques d'averses sur les Alpes, du beau temps partout ailleurs. Des températures qui demain matin partent de 20 degrés dans le Finistère et qui montent jusqu'à 29 dans les Bouches-du-Rhône. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue. Elle a été réalisée à la technique par Jean Frédérix. Votre prochain journal, c'est à 22h avec Nicolas Ballu.